Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. J'ai lu et dévoré des volumes. C'est un virus, la lecture. Mais il n'y eut pas que la lecture, loin de là, dans la vie d'Ernest Cœur de Roy. Qu'y eut-il d'autre ? La politique, la médecine, le journalisme révolutionnaire, l'écriture libertaire et l'exil. L'exil, cela peut durer toute une vie. L'exil, puis la mort et l'oubli. L'émission Relecture d'Hubert Juin dans les années 70 permettait de faire ressurgir des écrivains ayant totalement disparu des librairies, sinon des bibliothèques. Mais parfois une réédition bienvenue donnait une actualité à une œuvre perdue et à ses auteurs. En l'occurrence donc, Ernest Cœur de Roy, 1825-1862, lequel, Ernest Cœur de Roy, avait ressurgi aussi à sa façon, longtemps après sa mort, au cours de la guerre de 14-18. Première diffusion sur France Culture, le 14 février 1978.
Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux, nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Qu'aucun filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Qu'aucun filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu. Et je couche sur la paille.
Relecture. Une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Ernest Cœur de Roy. Avec la participation de Roger Langlais, Jacques Leglou, Jacques Sellard, Jean-Michel Gouthier. Texte lu par François Mestre, Philippe Moreau. Réalisation Anne Lemaitre.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés, pends-le, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne.
Relire Ernest Cœur de Roy, je pense qu'aujourd'hui, Relecture propose un thème un peu prétentieux. Il s'agirait d'abord de le lire. Et c'était assez difficile, étant donné que rien d'Ernest Cœur de Roy ne se trouvait dans le commerce de la librairie. Heureusement, les éditions Plasma viennent, dans une collection que dirige Roger Langlais, de rééditer un ouvrage fondamental d'Ernest Cœur de Roy qui a pour titre « Oura » ou « La révolution par les Cosaques ». C'est tout un programme. Ce livre a été édité par Jacques Leglou, je m'empresse de le préciser, parce que Jacques Leglou est parmi nous. On lui doit également, si on veut, un disque, n'en est pas le seul responsable, un disque paru aux éditions musicales du Grand Soir et qui a pour titre « Pour en finir avec le travail ». Nous entendrons certaines de ses chansons et nous verrons que finalement nous ne quittons pas tellement Ernest Cœur de Roy en le faisant basculer dans un monde moderne. Qui était Ernest Cœur de Roy? Je pense qu'il faudrait d'abord lui laisser la parole.
Cependant, j'ai lu, parce qu'on espère toujours que les auteurs se prononceront sur quelque chose et qu'il serait bon de lire si les auteurs écrivaient avec franchise. J'ai lu parce que nous ne savons pas dire un mot sans dévorer des volumes. Moi qui m'en repens comme ceux qui ne s'en confessent même pas. J'ai lu parce que les livres ont encore ce résultat avantageux de nous faire détester le mensonge. Je me suis inoculé le virus pour préserver mon sang d'une contagion mortelle. Sous les cieux meurtriers, en temps d'épidémie sidérante, l'homme n'échappe à la mort qu'en courant sur elle. Puisse mon audace me sauver du naufrage de la civilisation. Hélas, je me suis laissé attirer dans tous les pièges. Heureusement, jusqu'à cette heure, j'en suis sorti sain et sauf, comme de celui de l'érudition. Moi, comme les autres, j'ai admiré les chefs de parti. Ainsi, j'ai pu les approcher. Si tous les hommes les avaient observés d'aussi près que moi, je m'assure qu'il n'y aurait plus de parti. Cachez-vous, tribun. On vous a vu. Moi aussi, je me suis dit sectaire. Ainsi, j'ai été forcé de défendre toutes les idées des maîtres, bonnes ou mauvaises. Si tous les hommes avaient soumis leur esprit à pareille torture, je suis convaincu qu'il n'y aurait plus des sectes. Prenez garde, démagogues, on vous lit. Moi aussi, j'ai été médecin. Ainsi, j'ai pénétré l'ignorance et le cynisme des princes de la science. Si tous les hommes s'étaient mirés aussi longtemps que moi dans la trousse doctorale, je suis bien certain qu'ils ne laisseraient plus exercer sur eux le droit de vie et de mort. Tuez vite tout le monde, arbitre du corps humain, ou tout le monde vous tuera. Moi aussi, j'ai reçu le baptême, la communion et la confirmation. C'est qu'il faut prendre, si l'on peut, le style de la Bible, l'esprit de l'Évangile et la sublime folie des apôtres, afin de combattre à armes égales les dogmes de la Bible, la lettre de l'Évangile et le vil fanatisme des tonsurés. Si tous les hommes avaient vu, comme moi, les ministres des divines miséricordes à travers la grille d'un confessionnal, je m'assure qu'il n'y aurait plus un prêtre en Europe pour conduire les funérailles du catholicisme. Arbitre des consciences, éteignez vos cierges. La révolution allume sa torche ardente des Alpes aux Pyrénées. Moi aussi, j'ai fléchi plus que quiconque sous l'autorité paternelle et cru sincère l'affection de la famille bourgeoise. Il fallait bien que j'apprisse, par les blessures de ma sensibilité, qu'un propriétaire n'a d'entrailles que pour le vin de sa cave. Si tous les hommes avaient souffert, comme moi, de la servitude de la famille, j'affirme sur mon âme que l'autorité patriarcale ne serait plus. Tremblez, tyran du foyer, on vous a embrassé. Moi aussi, j'ai eu foi en Dieu. Qu'en savais-je? Ce qu'on m'en disait? Le mot d'ordre de la vulgaire ignorance? Ne fallait-il pas que je réfléchisse sur cette gigantesque mystification afin de pouvoir dire quelque jour ce que j'en pense? Si tous les hommes avaient été pénétrés autant que moi par le néant, je jure qu'ils voudraient enfin posséder quelque chose de tangible. L'autorité et le mensonge sont poursuivis maintenant jusque dans le ciel. Gare dessus! Moi aussi, j'ai été modeste et timide, mais timide, jusqu'à défaillir devant un bourgeois décoré. Je ne suis même pas encore bien guéri de cette névrose. Ne fallait-il pas que je fusse témoin de l'outrecuidance de cette valetaille pour me convaincre que l'indépendance ne sert de rien à l'homme en ce temps-ci, s'il n'y joint une sorte de fierté sauvage et la haine instinctive de tout ce qui est gluant? Que les bourgeois cachent leurs rubans, les rubans rougis par le sang des morts de juin, car ces rubans se portent sur le cœur et servent de point de mire au bal. J'ai 29 ans. J'ai fort à faire pour racheter la première partie de ma vie par la seconde, pour compenser mes années d'esclavage par des années de révolte, pour verser sur toutes les plaies de mon humiliation le baume de mon orgueil. J'espère vivre assez, cependant, pour fournir à mes contemporains l'exemple d'un homme développant complètement les contradictions de sa nature, poussé vers de grandes luttes par le seul mobile de l'amour-propre, et mourant en affirmant sur les jours de sa vie l'omnipotence du droit, la stérilité du devoir, le jésuitisme de la modestie, le majorat de l'individu et l'excellence des passions.
Après ce que vient de nous dire, par François Mestre interposé Ernest Cœur de Roy, je pense qu'il serait intéressant préalablement, si vous le voulez bien, de dépouiller, de déchiffrer un peu l'événement historique dans lequel Ernest Cœur de Roy se débat, dans lequel il prend parti, et qui va faire de lui, dès 1849, un exilé, jusqu'à sa mort. Alors, cette époque, en quelques mots, Jacques Le Gloux.
On part de sa naissance, 1825. En 1825, politiquement, la France rêve encore, je parle du prolétariat français, rêve encore de la Révolution française. Et nous avons, dans toute la France, des séquelles des associations secrètes qui sont restées de la Révolution française. Et pour comprendre Cœur de Roi, il faut le comprendre dans deux directions. La première, c'est les sociétés secrètes, où on va retrouver Blanqui, et c'est d'autre part le rêve socialiste de Babeuf, qui va être repris par Buonarroti, aussi avec les sociétés secrètes.
Mais la conjuration des égaux.
La conjuration des égaux, que nous retrouverons Buonarroti d'ailleurs dans les premières années de Cœur de Roi. Et également le socialisme, j'allais dire, qui n'est pas encore né.
Pré-scientifique, comme on
dit. Pré-scientifique et le pré-sentimentaliste avec Mazzini. Nous sommes donc à la charnière de la fin de la Révolution française et en même temps, on va au-devant de la querelle Marx-Mazzini. Marx-Bakounine avec tous les utopistes. Alors bon, alors en 1825, en France, c'est Charles X et Polignac, c'est une France tenue avec beaucoup de fermeté, beaucoup de rigidité.
Et en même temps, enfin, dans cette classe dirigeante, des choses assez alarmantes. Enfin, tout le monde sait que Polignac prenait ses conseils directement de la Vierge, enfin, dans son oratoire.
Oui, c'est une...
La presse disait Charles X a été à la messe et il a été à la chasse ensuite. Et puis pour varier, on disait il a été à la chasse et puis il a été à la messe.
Oui, c'est une France qui oublie son histoire. C'est un rêve qui domine la France. Il n'y a aucune réalité, autant dans le pouvoir que dans la gestion économique. C'est-à-dire que le marasme économique de 25 à 35 est présent dans toute l'Europe. Toute l'Europe est en crise. Mais ça n'apparaît pas dans les pouvoirs politiques. Il faut attendre 1830, pour les Glorieuses, pour voir la réaction populaire. La Révolution française revenait sur les barricades. Alors, donc Louis-Philippe, avec la nouvelle bourgeoisie libérale, avec les banquiers éclairés, avec Thiers, avec Lafitte, une nouvelle France apparaît. Une nouvelle bourgeoisie qui connaît la politique et qui veut dominer la crise, car elle a conscience de la crise économique.
Comme disait Barrault, c'est la meilleure des républiques possibles.
On part donc d'une nouvelle bourgeoisie, mais la bourgeoisie qui connaît le prolétariat aide aussi le prolétariat à se reconnaître. Et de 30 à 48, nous allons voir dans la France et surtout sur Paris, la révolution venir sur les barricades.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu.
La majorité des intérêts actuels, qu'on en soit bien certain, est coalisée contre la Révolution. Les 14/16 de nos populations, soit comme détenants, soit comme fonctionnaires, tiennent pour la conservation de la gêne et de l'épargne. Quant aux 2/16 qui restent, ils sont composés de prolétaires ignorants et malheureux que la faim courbe sur le travail, qui ne suivront la révolution qu'entraînés un instant par des émeutes stériles et qui la déserteront bientôt, réduits par la famine, lorsque les riches auront fait vide de toute ressource et de tous travaux autour d'eux. Encore une fois, dans les termes où elle est posée aujourd'hui, la révolution ne peut pas sortir des sociétés civilisées. Ceux qui la servent avec connaissance de cause se réduisent à une poignée imperceptible et leurs voix se perdent au milieu du vacarme infernal de l'industriel Cohu. D'ailleurs, ils n'ont pas de programme, ne peuvent pas en avoir et sont incapables de s'unir dans une action commune. Car ainsi que je l'ai déjà dit, il faut que la démocratie socialiste soit désunie, afin que chacun s'affirme par réflexion dans ses opinions propres, afin que l'indépendance de l'individu s'élève sur la ruine de tout gouvernement et de tout parti. Ainsi, tandis que nos intérêts présents ne permettent pas qu'un nouvel ordre social soit établi, les intérêts futurs de l'humanité le demandent impérieusement, car l'accroissement continuel de la population et des besoins nécessite sans cesse de nouvelles ressources. Comme qu'elles fassent, qu'elles avancent ou qu'elles reculent, les nations d'Occident sont condamnées irrévocablement à mourir.
Ernest Cœur de Roy est un étudiant très sérieux, très sage.
Études de médecine.
Études de médecine, salpêtrière. Il s'inscrit en 46 à des clubs socialistes et très démocratiques. Et il rencontre donc la démocratie, juste avant 48.
Je crois que son père était d'ailleurs sur les listes électorales.
Son père était
à tendance socialiste.
Son père était républicain et son père beaucoup influencé Cœur de Roy. C'est-à-dire qu'il a vu, je dirais dans un premier temps, le bon côté de la démocratie, c'est-à-dire les réunions publiques, les discours, et Cœur de Roy a beaucoup préparé de discours pour son père. Et ensuite, il a vu que rien ne pouvait sortir de la démocratie. Et ça, c'est par le biais des réunions publiques de son père et par les aspects de la vie quotidienne, des démarches, des principaux hommes politiques, entre guillemets, de l'époque. Son père avait donc déjà un milieu politique assez choisi.
Mais Roger Langlais, c'est donc ainsi qu'il faudrait expliquer à ce moment-là le vaste tournant d'Ernest Cœur de Roy. Parce qu'en somme, c'est un homme, il l'a dit d'ailleurs, j'ai été sectaire, j'ai fréquenté les leaders politiques, je sais ce que c'est. Mais tout d'un coup, il rompt.
Oui, en 1848. C'est-à-dire qu'en 1848, il est médecin à l'Hôtel Dieu, je crois.
Oui.
Et en février 48, il a l'occasion de voir, dans quelle situation se trouve le prolétariat de très près, de par sa profession, et d'autre part, c'est sa première participation en tant que révolutionnaire au mouvement social.
Mais après, ce sera l'exil.
Entre-temps, il va y avoir 1849. Il va y avoir l'exil intervient en octobre 1849. C'est après juin 1849 que... Enfin, il y a encore sa participation à juin 49, disons, qui sera la cause de l'exil.
Oui, mais je veux dire que l'exil se prépare depuis sa rupture.
Dès 1848, on peut dire d'ailleurs que la théorie des Cosaques, elle commence à se formuler sur l'échec de 48. C'est la première analyse de Cœur de Roy, c'est-à-dire c'est là qu'il commence à chercher d'autres voies pour le prolétariat, de renverser la bourgeoisie en partant de cette défaite du prolétariat en février 48.
En même temps, il rencontre certains leaders à Paris, socialistes. Ce sont les deux raisons qui mènent, si vous voulez, qui vont bientôt amener la théorie des Cosaques. La première, c'est la défaite des prolétaires désarmés devant les canons, devant la cavalerie, devant la force militaire du pouvoir. Et la deuxième, c'est de voir que les soi-disant chefs du prolétariat sont en fait les premiers à les abandonner, à affaiblir le prolétariat, à lui retirer des armes. Le peu d'armes qu'il avait, leurs chefs eux-mêmes les retirent.
Oui, c'est aussi le premier désabusement de Cœur de Roy, c'est-à-dire l'illusion politique commence à lui apparaître dans toute son horreur, finalement.
Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.
l'Occident ne se fera pas d'assez. Eh bien, que m'importe l'origine et le nom du peuple porte-glaive qui secoura l'anarchie sur l'Europe à la lueur des torches? N'est-il pas mon frère en Adam, en Christ et en révolte? L'œuvre humanitaire n'est-elle pas de toutes les nations? Et celles qui ont pris du repos ne se remettent-elles pas au travail quand leurs sœurs sont accablées de fatigue? Foulant sous mes pieds libres tout vain scrupule de nationalité, animé du seul désir d'annoncer vrai, je cherche, dans l'Europe, une force extérieure à l'Occident, force dont les intérêts soient contraires à ceux de la civilisation, dont les destinées soient opposées aux nôtres, force non arrêtée dans l'engrenage actuel, force qui ait beaucoup d'aspirations et peu de tâches encore faites, force neuve, supérieure à celle de la civilisation, capable de lutter victorieusement contre elle et d'en disperser les débris à tous les vents du ciel. Afin que jamais ne soit reproduit cet odieux assemblage de Babel et de Sodome, dans lequel je meurs au milieu des cadavres de mes frères par milliers agonisants.
Venons-en au présent livre. J'entends cette réédition actuelle, Oura ou la révolution par les Cosaques. Vous avez, Jacques Leglou, évoqué déjà cette notion de Cosaque, comment elle se forme chez Cœur de Roi, comment il en prend dès 48 la mesure, si l'on peut dire. Mais enfin, ici, nous nous trouvons devant un livre. Alors, je voudrais bien, Jacques Sellard, que vous disiez vos réactions à la lecture de ce livre, parce que je pense que, comme moi, vous l'avez découvert grâce à cette réédition.
Oui, absolument. La première réaction est le renouvellement de la surprise devant cette partie jusqu'ici non visible de l'iceberg du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'en fait le XIXe siècle nous réserve encore et continue de nous réserver de prodigieuses surprises. Autrement dit, il y a d'abord une démystification générale des catégories littéraires admises, parce que l'œuvre de Cœur de Roi est l'œuvre d'un très grand écrivain, d'un écrivain qui a à la fois la violence de la jeunesse, parce que en 1848, Cœur de Roi a 23 ans. Il est vraisemblable que son changement absolu d'orientation, son refus de s'engager un pas de plus dans les comités, etc., est avant tout le refus d'un homme jeune et qui sent d'ailleurs que la mort le talonne d'une certaine façon. Il y a véritablement une fièvre, une rage d'écrire dans Cœur de Roi qui est la rage d'un homme qui veut avoir dit un certain nombre de choses pendant qu'il en a encore la force, ce qui suppose effectivement une force prodigieuse puisque le livre est important et gros, mais se lit avec un souffle absolument étonnant. L'écriture est absolument maîtrisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune concession ni à un lyrisme de convention inutile, ni à aucun populisme, alors que Cœur de Roi, médecin à l'Hôtel Dieu, avait largement de quoi, si je peux dire, tartiner sur l'effroyable misère des réductions du prolétariat. En fait, il ne le fait pas. Il arrive à 28 ans, il a terminé Oura ou la révolution par les Cosaques. Et il a terminé véritablement une œuvre complète, non pas fermée, mais complète, qui est l'œuvre d'un homme d'une très grande expérience et d'une capacité de vision politique et philosophique prodigieuse, et en même temps d'un homme dont la violence de jeunesse éclate absolument à chaque ligne.
Ce qui est frappant, effectivement, mon opinion, je parle uniquement de l'écriture pour le moment, en lisant Oura ou la révolution par les Cosaques, moi j'ai songé à une sorte d'Isidore Ducasse qui n'aurait pas oublié l'écriture de l'autre amant. Quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose en tout cas de plus fort que Léon Blois. C'est-à-dire de moins épars. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Gouthier?
Oui, c'est également mon avis parce que je trouve que chez Cœur de Roi, il y a un excès et je dirais que c'est en cela. En tant que poète en 1978, où la poésie est de plus en plus enfermée dans des ghettos, j'ai trouvé en Cœur de Roi un personnage qui, en effet, n'hésitait pas à franchir, comme disait Sade, les dernières bornes
et c'est en cela que je l'ai reconnu comme un de nos contemporains.
Ce qu'il y a enfin, dans l'écriture, encore une fois, de Hourra ou la Révolution par les Cosaques, c'est quelque chose d'assez curieux, parce qu'il y a une sorte de démonstration emportée qui est éclatée par endroits de très belles images, pour employer un mot qui appartient au domaine de la poétique, si l'on veut. Mais ce sont des images qui ont ceci, me semble-t-il, de très particulier. J'évoquais Ducasse et Lautréamont. Il faudrait rajouter pour Cœur de Roi que ces images lui sont comme dictées par le réel. Je veux dire qu'il y a chez Ernest Cœur de Roi un homme qui est entré dans l'événement. Ce qui n'est pas le cas de Ducasse ni de Lautréamont. C'est-à-dire, si vous voulez, Cœur de Roi, ce serait effectivement un Ducasse qui aurait récupéré Lautréamont, mais qui aurait participé, par exemple, à la Commune de Paris.
C'est ça.
Alors, je pense que cet aspect du praticien politique doit quand même être souligné.
Ce qui est très remarquable, c'est que tout en ayant créé, produit... une œuvre littéraire qui, surtout par la variété des tons, des registres, par une espèce d'organisation qui est constamment sensible sous toute l'écriture, parce que les dislocations elles-mêmes, on sent à quel point elles ont été voulues, elles ont été élaborées. C'est musical au sens de, où le serait une très très grande symphonie dont l'aspect général se dégage à la fin de la lecture. En même temps, Cœur de Roi, de formation médicale, a un mépris très très marqué. Il le dit, la France domine jusqu'à un certain point l'Europe occidentale par son bel air, sa jactance littéraire, l'arrogance de sa diplomatie, etc. Et par conséquent, tout en faisant une grande œuvre littéraire, il se refuse absolument à ce que ce soit une œuvre de littérature.
Roger Langlais.
Ce qu'il faut préciser, c'est que Cœur de Roi n'écrivait pratiquement pas et n'avait pratiquement jamais eu l'occasion de prendre la parole. Disons, c'est en 48 qu'il le fait, dans des circonstances historiques précises, et ça explique beaucoup son écriture. Disons, c'est pas un hasard. Le rejet de la jactance littéraire, c'est aussi, c'est surtout le rejet de la jactance politique. C'est-à-dire qu'en 48, il éprouve le besoin de prendre la parole dans les clubs socialistes de l'époque. Et c'est comme ça qu'il faut voir, le problème de l'écriture, s'il y en a un. La genèse de cette écriture. Oui.
Jacques Leblou.
Oui, la jeunesse et surtout la violence et la solitude de l'écriture.
Oui, je pense que ceci est très frappant, parce qu'il est quand même le seul à écrire comme ça.
Voilà, et cette solitude de l'écriture, c'est bien par rapport à la solitude politique, à la solitude sociale. C'est-à-dire que, autant, si vous voulez, il est entré très rapidement dans un mouvement, dans lequel il n'a pas eu une grande participation, sinon qu'il a manié le pavé, comme tout bon parisien à cette époque, mais c'est qu'il rencontre tout de suite les hommes sociaux importants, et tout de suite, il comprend le jeu de la politique. Il s'en dégage immédiatement, il s'exile lui-même. Et c'est à partir de son propre exil, dans un exil général, qu'il se retrouve tout seul avec son écriture.
L'armée blanche de Dénikine est entrée en Ukraine en chantant. Mais bientôt la Makhnovchina la disperse dans le vent. Mais bientôt la Makhnovchina la disperse dans le vent.
Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs.
Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs.
Dans l'invasion prochaine, il faut que les barbares soient longtemps retenus loin des métropoles. Il faut que les civilisés se défendent longtemps à l'intérieur des villes, pour que, depuis les cités opulentes jusqu'aux pauvres hameaux, les hommes ne soient plus effrayés de l'immense coït de leur race sur toute la surface de la terre habitée. Il faut que les troupes d'Occident résistent un peu, s'il est possible, à celles du Nord. afin que le Nord déborde plus furieux sur nous. Le courant d'un fleuve se précipite d'autant plus rapidement qu'il trouve plus d'obstacles sur son passage. De chaque digue qu'on lui oppose, il s'élance d'un bond nouveau. Il faut que l'amour-propre blessé des chefs et les paroxysmes de colère des soldats concourent au travail actuel de la Révolution, le travail fumant de l'épée. D'autre part, il faut que dans l'intérieur des villes, les gouvernants, les tribuns et les chefs de parti soient vus sur les places, vilipendés, mendiants, misérables, condamnés, escortés de gamins hurleurs. Il faut que les prétendants soient réduits à ce point de détresse qu'ils ne puissent trouver un petit écu chez le banquier. Il faut que les hommes les plus renommés en soient réduits à ce point d'isolement que leurs proclamations n'attirent plus un seul curieux. Il faut que le peuple ne supporte plus que les ambitieux et les traîtres salissent les murailles de décrets ou de conseils insultants pour sa dignité. Il faut que chaque heure qui passe emporte une loi, un programme, une école. Il faut que du sein de la civilisation agonisante s'élève une anarchie, une prostitution, une promiscuité, une corruption, une misère, une fraude, une impudeur, une effervescente fangeuse telle que le sacro-saint monopole, se voyant une fois enfin dans toute sa laideur, se fasse honte à lui-même et d'effroi recule jusque dans la tombe. Il faut que nous soyons couverts de souillures, de nos souillures. Il faut que le suicide, l'homicide et la soif du sang nous enfièvrent et deviennent nos dernières ressources contre notre honteuse torpeur. Il faut que cette misérable civilisation du vol empoisonne au loin, par une littérature mille fois plus chétive et plus dédaignée de tout homme libre que ne fut celle de Byzance, de mémoire ravalée. Il faut que des modifications continuelles dans les autorités, les possessions et les principes fassent enfin comprendre aux hommes qu'il n'est pour eux de salut que dans la liberté, l'équité et la révolution, à tout jamais établies sur la terre. Ainsi, tandis que l'œuvre de destruction positive s'accomplira par la force au-dehors des villes, l'œuvre de destruction négative s'accomplira au-dedans par l'idée. Excités les uns par les autres, barbares et civilisés travailleront à l'envi, à la totale et inévitable décomposition sociale.
Dans Hourra ou la Révolution par les Cosaques d'Ernest Cœur de Roi, nous avons parlé de l'écriture, mais il y a aussi une théorie. Une théorie révolutionnaire, c'est-à-dire une théorie politique. Et nous verrons par la suite qu'il y a aussi une théorie, disons, visionnée et visionnaire. Mais cette théorie politique.
Oui, il y a peut-être une chose qu'il faut préciser tout de suite sur le. Puisque ça fait référence directement au titre du livre, c'est que c'est ce que dit Le Glou dans sa préface, c'est que les Cosaques, les Cosaques ne sont pas des Cosaques en fait. L'allusion aux Cosaques, c'est en fait plus une allusion non pas aux Cosaques de Nicolas Ier, le tsar, mais aux Mongols, aux Kalmouks du prince Tumen, c'est ça, qui était en fait non pas donc une armée d'État, mais une force autonome barbare, si on veut.
Et très très violente, et qui avait laissé en Europe, par la lecture de certains articles de journalistes, une impression de terreur épouvantable après les batailles de Napoléon Ier.
Oui, mais ce qui me frappe, c'est un certain rapport que je perçois par instant dans Cœur de Roi, c'est un rapport avec Fourier. Parce que l'attaque de la civilisation rejoint un thème cher à Fourier. D'autre part, Ernest Cœur de Roi a fréquenté des fouriéristes, n'est-ce pas ? Il est évident que Fourier ne va pas jusqu'à la théorie des Cosaques, mais il a quand même cette haine de la civilisation. Pour lui, la civilisation, c'est le stade d'humanité le plus méprisable, et on a l'impression, pour Cœur de Roi, c'est évidemment l'image même d'une société bloquée, qui, pour être débloquée, doit être détruite.
Oui, enfin, il était lecteur de Fourier d'une part. Le premier livre qu'il a donné, c'est La barrière du combat. Il l'a écrit avec un fouriériste, oui, Vautier. Oui.
Et dans les Jeux d'exil, il fait beaucoup de références à Fourier. Il reprend la formule de Fourier sur la société, c'est-à-dire qu'une société, on ne voit la qualité d'une société à ce que la société offre aux femmes. Et on a tout un passage de plus de 50 pages sur la défense de la femme, la défense des enfants, Qu'est-ce que la prostitution? Qu'est-ce que le vol? Il retourne tout...
Dans son ouvrage d'exil, alors.
Dans les jours d'exil.
Oui, c'est ça.
Et dans les Cosaques, en fait, on est toujours sur la même formule de la barrière du combat. Si la révolution ne peut pas se faire par le bien, elle doit se faire par le mal. Parce qu'en fait, l'idée de cœur droit, c'est que la révolution doit se faire.
Par le mal, c'est-à-dire par la violence.
Par le mal, parce qu'il sait en même temps que c'est pas révolutionnaire, si vous voulez, ces barbares qui vont envahir notre territoire, enfin, ou son territoire, puisque lui-même, il est prêt, le premier, à se faire assassiner par les barbares. Sa règle d'or, c'est qu'il faut que la révolution se fasse. Il sait maintenant, après 48, qu'elle ne peut pas se faire par le bien. Elle ne peut pas faire par le socialisme, par les ouvriers qui vont s'allier avec la petite bourgeoisie contre la grande bourgeoisie. Donc, elle se fera par le mal.
La démocratie est à l'heure.
Voilà.
C'est ça.
Jacques Sella.
Il faut noter ce que la formation médicale très très sérieuse de Cœur de Roi, à une époque où la médecine elle-même était par bien des aspects progressiste, c'est-à-dire que la médecine était très très nettement la science la plus avancée, qui s'était le plus tôt dégagée de certains obscurantismes. Cette formation médicale est tout de même
très... Et qui impliquait la pratique aussi.
Et qui impliquait une pratique, est tout de même présente. Cœur de Roi écrit par exemple... C'est toujours au moyen d'une perturbation totale que les vraies crises agissent sur le corps de l'homme. Toujours, c'est par un dieu, par un mal quelconque, variole, rougeole, crise dentaire, crise d'accroissement, de puberté, etc., que la vie se renouvelle plus complète et plus intégrale. Et il dit le passage d'un âge à un autre, une théorie cyclique du mouvement social, l'apparition de toutes fonctions sont marquées chez l'homme par une crise, par une opération violente, despotique, souligne-t-il, et là, je vous rejoins dans l'appréciation du caractère sadien, très très profond, puisqu'il y a ce même mot d'un despotisme qui doit agir totalement sur une société.
Vous avez bien fait de parler de la médecine, parce qu'il y a tout un développement en plusieurs endroits de Oura ou la révolution par les Cosaques que fait Ernest Cœur de Roi. C'est cette curieuse dialectique qu'il introduit entre la vie et la mort. C'est-à-dire, de la mort naît la vie. La mort est quelque chose d'absolument nécessaire à la vie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un cadavre, dit-il? C'est quelque chose qui se transforme. Il y a presque une idée d'un certain transformisme, pas du tout darwinien, bien sûr, ou autre, mais enfin, presque mythique, malgré tout.
Oui, ça recoupe le processus révolutionnaire comme il le conçoit. C'est-à-dire qu'on doit d'abord déblayer complètement le terrain, disons.
La table rase.
Table rase, et ensuite, effectivement, on construit quelque chose. Quoi.
Et alors, il y a une formule... On peut passer de la médecine à la chimie. Cœur de Roi a laissé une formule très simple. En chimie, c'est par l'intervention d'un réactif puissant que les corps en dissolution se précipitent sous une forme nouvelle. Il ne saurait en être autrement dans le creuset social.
C'est ça, une application vraiment alors scientifique.
Scientifique. Tout à fait...
À la société.
À la société.
Et à sa transformation nécessaire, puisqu'il faut évidemment, lorsqu'on parle de Cœur de Roi, et vous aviez raison de le souligner, ne jamais oublier que pour lui, le nécessaire, et disons l'inévitable, c'est la révolution.
Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans, qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser l'Ukraine, à jamais tous les tyrans. Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang.
Je reviens sur mon idée cosaque, parce que depuis tantôt un an que dans l'Orient sont tirés tous les glaives, il ne s'est pas trouvé dans l'Occident tout entier un seul homme pour recueillir le sang qui coule, y tremper sa plume et sur papier de deuil écrire une prédiction vraie. J'y reviens parce que je suis las d'entendre vociférer sans cesse « Vive la France » ou « Vive l'Angleterre », »« Vive l'Empire » ou « Vive la République », »« Vive le privilège » ou « Vive la communauté ». Je voudrais distinguer dans les rumeurs des foules une de ces grandes exclamations « Vive l'humanité, vive la liberté, vive le travail, vive l'anarchie, vive le bonheur !» Je reviens sur cette idée qu'il faut des voix jeunes pour annoncer tout ce qui est nouveau, pour vibrer sur les peuples comme la trompette du jugement, pour crier « en avant, la guerre c'est la rédemption, Dieu le veut !» Le Dieu des criminels, des opprimés, des révoltés, des pauvres, de tous ceux qu'on torture. Le Dieu Satan au corps de soufre, aux ailes de feu, aux sabots de bronze. Le Dieu du courage et de l'insurrection qui déchaîne des fins dans les cœurs. Notre Dieu. Plus de conspirations isolées, plus de partis bavards, plus de sociétés secrètes. Tout cela n'est rien, ne peut rien. Debout l'homme, debout le peuple. Debout tout ce qui n'est pas satisfait. Debout pour le droit, le bien-être, la vie, debout. En quelques jours, vous serez des millions, en avant par grands océans d'hommes, par grandes masses d'airain et de fer, avec grand bruit d'idées. L'argent ne peut plus rien contre un monde qui se soulève. En avant, d'un pôle à l'autre, tous les peuples, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, et que le globe frémisse sous vos pas. En avant, la guerre, c'est la vie. La guerre au mal, c'est la bonne guerre. Déjà le privilège a semé tant de furie derrière lui, qu'il y a en Galicie des mères qui font rôtir leurs enfants, qui surveillent le feu et qui mangent le fruit de leurs entrailles sous le chaud soleil de juillet. Déjà le despotisme a semé tant de morts derrière lui que dans tout l'empire d'Autriche, l'homme jeune qui choisit la liberté pour amante se prépare à un linceul sanglant. Déjà l'usure a semé tant de détresse après elle qu'il y a dans l'empire français 36 millions d'hommes dont la faim brisera les dents avant qu'ils osent mordre la botte d'un histrion couronné. Est-ce assez? Serez-vous plus patient que Job, le saint homme, qui de son fumier se soulevait pour menacer Dieu? Pour vous soulever, attendrez-vous que chaque usurier appuie le talon sur la gorge d'un honnête homme? Que les propriétaires fassent piaffer leurs chevaux dans les rues, pavées de cadavres? Attendrez-vous que vos pauvres filles se prostituent au premier venant? Attendrez-vous que dans chaque allée sombre, le désespoir aiguise un poignard, que toutes les femmes deviennent stériles et que tous les enfants naissent rachitiques? Attendrez-vous que la maigre famine broute des brins d'herbe entre les pavés? En avant, où c'est la mort. La vieille politique, les vieux partis, les vieux intérêts, l'autocratie, la démocratie ne sont plus que des mots. Immobilisme ou révolution? Les sociétés ont à choisir entre ces deux termes du problème social. Et l'immobilisme, c'est l'Occident, la civilisation. Tout ce qui est déjà, tout ce que nous connaissons, tout ce qui ne nous suffit plus. Tandis que la révolution, c'est tout ce qui n'est pas civilisé, tout ce qui reste encore à faire, tout ce qui végète, tout ce qui n'a pas accompli sa destinée. Entre la grande pépinière d'hommes et le grand atelier de force qui gronde à l'est, entre l'immense cimetière de peuples et de traditions qui râle à l'ouest, entre l'aurore et le crépuscule, il faut faire un choix. Plus d'atermoiement, plus d'habileté possible. Il faut entrer dans la Ligue occidentale à la suite de la France ou dans la Ligue orientale à la suite de la Russie. J'ai prévu depuis longtemps dans quel cercle de feu la fatalité renfermerait les Européens. Bourgeois du vieux monde, constitutionnels, républicains, démocrates, blanc, bleu, tricolore, rose ou rouge, vous êtes bien pris. Mais l'écu, le vieil écu, c'est votre honneur à vous. À genoux donc, devant Napoléon III.
Quel bal brillant, quelle lugubre scène, contraste affreux, le rire et la douleur. Le président entre au bal, quelle aubaine, les patients ont vu l'exécuteur. Le couteau tombe, sépare et écarte le chef du tronc. Le sang jaillit tout noir et vient tacher le front de Bonaparte. À l'Élysée, on dansera ce soir.
Je voudrais revenir sur cet aspect, Jean-Michel Gouthier, que vous avez évoqué, qu'a évoqué Jacques Sellard, cet aspect sadien, si l'on pourrait dire, et qui se voit effectivement, vous aviez raison d'en parler, parce qu'il est vrai qu'il y a à certains endroits, je parlais du glacé parfois des images dans Oura ou la Révolution par les Cosaques, il y a presque une écriture aussi, un peu à la Sade.
C'est cela. Et
avec l'écart, évidemment, du temps, bien sûr.
Bien sûr. Et il y a également, je trouve, un bond dans l'inconnu. Justement, c'est-à-dire qu'il, j'avais souligné, justement, dans le texte, en l'intitulant un peu comme un conseil à un jeune poète, il disait « J'ai encore beaucoup trop lu pour faire ce livre, je voudrais pouvoir oublier tous les renseignements que j'ai recueillis en y travaillant, je m'assure que j'y gagnerai beaucoup en clarté et en précision ». Fort de cette nouvelle expérience, je conseille plus que jamais aux jeunes écrivains de ne pas trop jouer avec les livres. Lire trop, c'est vouloir ne jamais n'en nier et ne jamais rien affirmer. L'extrême érudition comme la primitive ignorance engendre le mutisme stupide ou le délirant bavardage. Je veux dire que là, toutes les barrières sont franchies et c'est vraiment le bond dans l'inconnu.
Il y a un autre point qui m'a frappé, parce que je dois dire que dans cette édition Plasma de Oura, il y a un tableau chronologique fort utile. Et on voit à quel point le destin, pourrait-on dire, d'Ernest Cœur de Roy se marie, s'entremêle, épouse par moments, puis se dégage d'un autre destin, d'un autre homme praticien politique, mais de sa classe, enfin de son type, et qui est Joseph Déjac. Et ceci m'a un peu alerté, enfin, parce qu'il y a là un jeu entre ces gens. En gros, alors que Cœur de Roy aura l'exil Suisse-Angleterre, déjà que lui jouera un certain rôle, enfin, tentera de jouer un certain rôle, en Amérique, notamment dans la guerre entre le Nord et le Sud.
Oui, c'est un parallélisme volontaire que j'ai mis dans la présentation de l'époque Ernest et son temps, parce que déjà que Cœur de Roy ont ressenti la même naissance du socialisme. Et dès 48, ils se sont connus à Londres en 49. Cœur de Roy a eu plus de facilité financière pour rester en Europe, alors que déjà qu'a beaucoup souffert du manque d'argent. Il a dû s'exiler à New York où il a fait publier un journal qui s'appelait l'Humanisphère, qui est encore inédit, qui reste, je crois qu'il doit rester un exemplaire et même pas complet à la Bibliothèque nationale. Et on voit la critique de Cœur de Roy. C'est-à-dire qu'il y a un moment où justement Gouthier le faisait remarquer, où Cœur de Roy échappe à la réalité. C'est-à-dire qu'en niant le prolétariat, il ignore en même temps toute la vie sociale. Il est passé au-dessus. Il est dans l'utopie. Il a plus de racines pour comprendre ce qui peut se passer socialement en Europe. Quand il arrive dans ces dernières années, il est vraiment comme un météore ou un ovni, mais il a totalement dépassé le socialisme de son temps. Il est entré dans son écriture, il est entré dans une imagination fourriériste de la déformation, la destruction totale du monde. Il ne peut plus rien voir, il ne peut plus rien sentir. Tout ce qu'il touche n'est plus humain. Je veux dire, ce qui est devenu humain, c'est ce qu'il rêve. Alors que de Jacques est resté, je dirais, plus terre à terre.
Oui, parce qu'il est mélangé à des événements politiques réels, lui.
Oui. Il défend les Noirs aux États-Unis, il fait des articles pour défendre les Indiens, parce qu'en même temps, c'est un oubli dans le mémoire Ernest et son temps, c'est qu'en même temps, des grandes luttes sociales en Europe et de l'affrontement Marx-Bakounine, aux États-Unis, nous avons la destruction de la race indienne par l'armée du Nord. Alors, comment peuvent-ils en même temps cheminer dans le libertarisme, entre guillemets? Ils sont tous les deux anarchistes, tous les deux, ils attaquent l'autorité. Quand, par exemple, De Jacques parle d'abat les chefs, on entend Cœur de Roy. Pour faire passer la révolution comme un fer rouge à travers ce siècle, une seule chose à faire, démolir l'autorité.
Il y a aussi leur presque une bête noire pour eux, parce qu'ils représentent quelque chose d'institutionnel ou d'institutionnalisé. Et dans l'exil, c'est Victor Hugo. Enfin, c'est déjà contre Victor Hugo à Guernesey, je crois.
C'est ça. Oui. Déjà et cœur de roi contre les représentants officiels.
Contre tous les chefs de parti.
Les chefs de parti. Parce que contre les chefs, c'est pas contre les chefs de, on pourrait dire en simplifiant, les chefs de la droite.
C'est... Non, oui, bien sûr, non, tous les chefs, y compris les chefs de la gauche.
D'abord, les chefs de la gauche.
Oui, ils s'opposent en fait aux ennemis, aux pseudo-ennemis de l'Empire, finalement. Ce qui explique aussi le refus de la prolongation de l'exil de Cœur des Rois, c'est le refus de l'amnistie en 1859, je crois. Oui, ils refusent l'amnistie de l'empereur.
Jacques Sella.
Ce qui est tout de même frappant, c'est que la rage, l'enthousiasme de Cœur de Roi se porte beaucoup moins sur des mécanismes politiques ou des responsables politiques que sur une classe tout entière qui connaît et la violence de sa description de la bourgeoisie française de son époque reste évidemment très actuelle. En ce sens, il est beaucoup plus animé par la haine de cette classe à laquelle il a appartenu et qu'il connaît bien que par un mouvement positif vers le prolétariat. Finalement, il annonce dans une mesure assez importante Darien, dont on ne sait pas trop si Darien l'avait lu ou le connaissait, mais il y a absolument dans la description par Cœur de Roi de l'attitude de la bourgeoisie française à l'égard de toute occupation, des sons, des résonances qui sont avant la lettre du Darien. D'où je conclus que le suprême patriotisme, dans quelque temps, sera de posséder beaucoup de roubles. Il revient régulièrement sur cette idée, la bourgeoisie française n'a pas de patrie, elle est absolument prête à tous les asservissements et à tous les avilissements pour continuer à gagner quelque argent. Évidemment, c'est très, très violent, les Français sont les plus bafoués et les plus grotesquement ridicules des hommes. Il y a longtemps que j'ai renoncé à mon dividende d'illustration française, qui est exactement la phrase que Darien et d'autres après lui pourraient signer.
La tour Eiffel, la Chaux-Pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris. Sévère, Paris, sévère.
Paris, la vieille Lutèce, la cité métropole des Gaules qui conserve encore dans son enceinte avare les termes de Julien, la capitale de Clovis et de Robert le Fort, le plus beau fleuron de la couronne de Philippe Auguste, le pressoir des révoltes rouge encore du sang de la Saint-Barthélemy et de la Révolution française. Le siège des Oins consacré où l'on ramena Charles VII et Louis XVI menacés de perdre une couronne. La ville enviée des Normands qui reconnaît Henri VI d'Angleterre pour son légitime souverain. Le Paris de Louis XIV et de Napoléon. La ville qui fait ou défait tout, qui règle tout, le caractère, la science, la langue et les battements de cœur de 36 millions d'hommes. Paris, qui sanctionne toute gloire comme tout scandale, qui confisque tout ce que l'industrie, les arts, les lettres et les sciences produisent du nord au midi, qui suce le sang des provinces, leur enlève leurs forces vives, leurs jeunes intelligences et leurs aspirations grandioses, qui veut tout, absorbe tout et ne rend rien que des cadavres amaigris par le désespoir, aujourd'hui celui de Gilbert et demain celui de Moreau. L'abîme, toujours béant, au milieu de l'Europe, dont il attire les hommes ambitieux, comme la lumière du soir attire les papillons privés de brillantes couleurs. Paris, aux mille égouts, dont les plus propres sont sous terre, aux mille orgies, dont les moins infâmes ont pour témoin la nuit, aux mille spéculations suspectes, aux mille vols honorés, aux mille hypocrisies triomphantes. Le glorieux bazar où les esclaves blanches sont vendues en plein jour par des mères ou des maris d'emprunt. La sentine des passions délirantes. Le grabat des insomnies désespérées, des suicides, des agonies atroces. La couche souillée des amours à fantaisie lugubre, à convoitise effrénée, à érection déchirante, qui demande à chaque heure des formes nouvelles et des chairs fermes, chairs de femmes ou d'adolescents. Paris, c'est tout cela. Et bien plus encore. C'est la vieille fille bigote et bavarde qui farde ses rides et cache sa froideur osseuse sous de grandes loques de roman. C'est la bacchante couperosée criante aux autres villes, « Admirez, imitez-moi !» C'est l'ardente Messaline qui rafraîchit ses lèvres turgescentes dans les bénitiers consacrés et joint, le dimanche, pour prier, ses mains encore sales du trafic de la semaine. C'est la femme boutiquière, usurière, la femme qui vend, marchande, achète et calcule, la femme qui fait de l'argent. Sur le corps humain, c'est une lèpre, sur le continent, un opprobre. Pour les peuples, c'est une continuelle provocation, pour les rois, une convoitise altérante, pour les invasions, un aimant.
Les sociales n'ont rien fait pour abréger les forfaits. L'infamie capitaliste, mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, et tout pouvoir il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse.
Le dernier mot de la civilisation, du privilège, n'est pas donné par une seule des nations bourgeoises d'Occident, mais par toutes. L'Angleterre exerce l'empire du commerce sur les mers lointaines. La France domine jusqu'à un certain point l'Europe occidentale par son bel air, sa jactance littéraire, l'arrogance de sa diplomatie et la crainte qu'inspire sa force relative. Les nationalités bourgeoises qui l'environnent sont devenues comme ses préfectures. Elle exécute ses ordres parce qu'elle compte sur sa puissance pour les sauver des deux barbaries redoutées, barbarie cosaque et barbarie socialiste. L'intérêt, dit Montesquieu, est le plus puissant monarque de la terre. La France ainsi étendue, l'Europe occidentale, si l'on veut, je l'appelle un cadavre, car elle est prise dans un engrenage social qui ne lui permet ni de reculer, ni d'avancer, ni de faire un écart. Engrenage qui comprime les hommes et les peuples au point qu'ils ne sauraient plus avoir de caractère distinctif. Or, l'immobilisme et l'uniformité d'aspect sont bien les signes les plus certains de la mort aux lèvres froides. Ce cadavre est là, sous ma main. Il cherche à m'effrayer avec ses yeux ternes, ses dents serrées, son odeur putride et l'acier des baïonnettes qui brille dans ses cheveux. Mais je ne suis pas de ces écrivains mendiants qui ont peur de la vérité, qui ont peur de la mort. Je sais ce que c'est qu'un cadavre, et qu'on peut l'étudier en chantant. Tout ce que je me rappelle des bancs de l'école, c'est qu'ils sont de sapin et flamberont bien quelques jours. J'ai fondu le fer de mon scalpel en une plume tranchante. Les morts sont les moules des vivants. Disséquons les morts. Je déchirerai le linceul écarlate qui recouvre le cadavre de l'Occident. Je ferai voir sa corruption sagneuse. Un passé glorieux renversé sur des débris d'autels et des cadavres de rois. Les anciennes institutions emportées dans la tourmente de révolutions si formidables que la bourgeoisie voudrait en effacer jusqu'au souvenir. Un avenir gros de misère, de révolution, de guerre et de naufrage dans lequel l'ordre actuel s'engloutira. Et pour le présent, des pouvoirs méprisés, assis sur des pointes de sabre, les pieds dans le sang, misérable parodie de grandes époques. Le choc meurtrier de tous les intérêts, l'industrie brisant les hommes dans ses rouages immenses, distribuant l'indigestion aux uns et la fringale aux autres, rendant en pluie de sang la sueur du pauvre qui l'a fait prospérer. Des populations d'ouvriers tassées dans de grands centres industriels et moissonnées épidémiquement par la mort. La concurrence homicide, la soif du gain, l'exploitation du travail, le morcellement de la terre poussé à l'impossible, la ruine, la grève, la mendicité, la répression, la correction, la banqueroute, l'agiotage, l'usure, la féodalité industrielle, l'écrasement commercial, la traite des blancs, la frénésie de la spéculation, la fièvre de l'or, répandant partout le jeûne, les privations et la misère. Le spectre de la faim, suspendu sur des milliers de têtes. Du plomb pour ceux qui demandent du pain. Le workhouse, substitué à l'atelier. Le prolétariat frémissant, refoulé dans les faubourgs, altéré de vengeance. L'émeute, renaissant de l'émeute. L'épouvantable désordre actuel subi par terreur de désordres plus grands encore. La jacquerie individuelle traquée dans les bois mais invaincue et plus redoutable de jour en jour. Des légions innombrables de fonctionnaires et de valets toujours inassouvis. Une armée féroce, un clergé jésuite, une magistrature humiliée. Des nations entières représentées par des instituts de sourds-muets. Des prétoriens dégoûtants de sang, les plus casse-cou des conspirateurs présidant aux destinées des empires. Plus de croyance, ni dans la justice, ni dans la hache, ni dans la monarchie, ni dans la république, ni dans l'humanité, ni dans la patrie, ni dans la liberté, ni dans la religion. Pour Coran, un code romano-napoléonien qui sanctifie l'absolutisme et le vol. Plus de ces mobiles d'honneur, de gloire et d'espérance qui poussent les peuples aux grandes entreprises. Les partis se déchirent, les intrigants se mangent le blanc des yeux. Le talent est mince comme feuille et la vanité s'enfle jusqu'à crever pour s'égaler à l'ambition. Les hommes sont décidés par le suicide, l'assassinat, le jeu, le vol, les loteries et la bourse. Par des crimes inouïs, par un ensemble de jouissances qui dégradent et atrophient l'espèce, par une littérature échevelée, des confessions de désespérance, un romantisme desséchant, mercantile. Le théâtre et les arts sont devenus la proie des agents d'affaires. L'espionnage s'est introduit partout, dans le sein des familles, dans les confidences de l'amitié, dans les transports d'amour. L'individu n'a plus rien de sacré. Honneur, pensée, paroles, signatures et serments, tout est devenu matière à trafic. Les jeunes bourgeois ont placé leur esprit dans la pointe de leur moustache et la pureté de leur conscience dans le vernis de leurs souliers. Les femmes envoient des baisers à Hénaud le fouetteur. Les hommes élèvent des arcs de triomphe à Napoléon l'assassin. Enfin, le peuple est devenu stupide, badaud, dégénéré, indifférent aux joues qu'il porte. Il va voir tout ce qui reluit. Les feux d'artifice, l'uniforme du soldat, l'acier du sabre, le Saint-Sacrement, le couperet de la guillotine.
Darien avait connu les textes de Cœur de Roi et on ferait un petit arrêt pour montrer comment Cœur de Roi a été connu et par qui et comment après il a disparu totalement.
Oui, parce que bien sûr, qui a connu Cœur de Roi? Qui devant nous finalement le maintient en survie de Cœur de Roi? Parce qu'un livre comme Hourra ou la Révolution par les Cosaques ou même le journal d'exil, il est évident publié dans les conditions dans lesquelles cela a été publié, le peu d'écho finalement que cela a eu, puisqu'il n'y en a eu aucun, bien, il y a des livres certainement qui, ils avaient de ces livres-là toutes les chances de disparaître. Il y a probablement des livres d'ailleurs de cette époque qui ne nous sont pas parvenus, qui ont complètement disparu dans cette production de l'exil par exemple. Alors évidemment, il a bien fallu que quelqu'un nous laisse quelque chose de Cœur de Roi, s'occupe de Cœur de Roi.
Alors là, on retrouve Darien et on retrouve Pouget et le père Pénard, oui. Darien et Scaramouche, des journaux libertaires.
Zodaxa, peut-être.
J'ai pas trouvé chez Zodaxa à l'origine. Enfin, c'est surtout grâce à Pouget. Et Pouget a fait connaître ensuite Cœur de Roi à différents clubs libertaires de Paris dans les années 80, je pense. Ensuite, un historien du mouvement social du 19e et du début du 20e, Max Netlow, a fait tout le parcours de la vie de Cœur de Roi. C'est-à-dire qu'il est parti de Tonnerre, il a fait Auxerre, il est monté à Paris, il a regardé toutes les archives des milieux médicaux, il a fait la Salpêtrière, il a fait l'Hôtel Dieu, il a fait tous les documents sur 48, il est parti à Londres pour trouver les archives de 49 et 50, il est parti à Turin, à Madrid, à Bruxelles, Il était parti en Suisse, il a été voir la mère de Corderoy, et c'est grâce surtout à Netlot, et entre autres, Netlot a fait redécouvrir beaucoup d'autres socialistes du 19e, que en 1910 sont republiés les livres de Corderoy. Et puis, c'est 14-18, c'est le socialisme qui vient en France, tu peux dire le mouvement majoritaire social-démocrate. D'un autre côté, c'est l'anarchisme avec l'individualisme qui est vite coupé du mouvement populaire. Et on a un couperet qui tombe sur toute la théorie libertaire romantique, libertaire cruelle, libertaire révolutionnaire.
Et Ernest Corderoy retombe dans l'oubli.
Retombe dans l'oubli.
Mais alors, à quoi attribuez-vous ce renouveau? Puisqu'on réédite ce livre qui est de proportion assez considérable, c'est donc qu'il y a une sorte d'appel. Moi, je pense toujours que quand on réédite un livre comme celui d'Ernest Corderoy, c'est parce que on sent qu'il y a quand même une sorte de demande, enfin, qui trouve à se loger dans un panorama.
Oui, il y a une demande, et je dirais que la demande n'est pas d'aujourd'hui. En 68, nous voyons monter sur des barricades des jeunes gens, des jeunes filles, qui n'ont rien de socialiste officiel, et qui tout d'un coup découvrent la fête. C'est une destruction de fait.
Oui, bien sûr.
Dans le plaisir. C'est pas ceux qui prennent les coups de couteau qui auront du plaisir, c'est ceux qui les donneront, et surtout sur ce qui va renaître derrière.
C'est la réapparition du crime économique et du crime social.
Exactement.
Jacques Sélin.
Oui, mais je pense que la réédition de Corderoy est venue en son temps. Je suis très frappé d'un mouvement assez général de redécouverte, je l'ai dit, je crois, d'un 19e siècle qu'on nous a systématiquement caché, parce que je ne ferai pas d'assimilation entre Ponson du Terrail et Corderoy, ni entre le chevalier de la Gardère et les Cosaques, mais il y a tout de même la révélation que ce 19e siècle ossifié complètement autour de quelques grands noms et d'une histoire à laquelle on a donné une fausse cohérence ne nous satisfait plus. Nous soupçonnons qu'il s'est passé bien d'autres choses à tout point de vue, à tous égards. Et là, il y a vraiment un intérêt général pour l'autre 19e siècle.
Mais cela se vérifie d'ailleurs même à l'intérieur des grands noms. Enfin, je veux dire par exemple qu'au Victor Hugo, père fondateur de la Troisième République et instituteur de la Troisième République, on substitue quand même petit à petit un Victor Hugo beaucoup plus inquiétant et d'une toute autre dimension sur tous les plans, y compris sur celui de l'écriture. Il y avait donc effectivement un 19e siècle que j'appellerais pour ma part le 19e siècle de l'anthologie, c'est-à-dire des morceaux choisis du 19e siècle. Enfin, et pour revenir à Victor Hugo, il disait un auteur auquel on coupe des morceaux, c'est un eunuque. Donc il réclamait évidemment une lecture de totalité, et j'imagine que déjà sur un certain plan, Ernest Corderoy, enfin ce présent livre, appartient justement à une lecture d'une totalité ou d'une globalité du 19e siècle, enfin, ce dont nous étions privés jusqu'ici.
Oui, mais il a eu également des difficultés, il a toujours des difficultés à se faire entendre et même à se faire lire tout simplement, parce qu'il y a toujours les ennemis officiels qui sont toujours là. Ils sont toujours là. Si vous présentez demain cet ouvrage aux socialistes officiels, ils ne vont jamais le reconnaître comme un apport à la théorie révolutionnaire.
Là, vous évoquez les Cosaques d'aujourd'hui.
Les Cosaques d'aujourd'hui.
C'est-à-dire une actualisation de la théorie des Cosaques de Corderoy.
Exactement.
Alors les Cosaques.
Alors les Cosaques, il y a 10 ans, ce sont les pillards. Ce sont les gens qui sont éclatés eux-mêmes du mouvement. Ce sont les pillards de Watts aux États-Unis, ce sont les émeutes sauvages, ce sont les premières barricades italiennes de 67, les barricades de 68. Ce sont des individus isolés, parce qu'aujourd'hui...
On peut les appeler marginaux?
Ça serait un peu abusif, parce que c'est quand même les millions de grévistes sauvages de 68, c'est pas seulement...
Non, c'est parce que le terme, on dirait à ce moment-là, bon, oui. Vous évoquez les marginaux, donc je voudrais quand même que vous précisiez sur ce point.
C'est ça, on ne recoupe pas avec le terme marginal l'équivalent, disons, des Cosaques modernes par rapport à la version qu'en a donné Corderoy.
Camarade ministre, boum, bada boum, bada boum, bam, bam. Camarade ministre, boum, bada boum, bada boum, bam, bam. Dernière heure pour comprendre, hi Carmela, hi Carmela. Dernière heure pour comprendre, hi Carmela, hi Carmela. badaboum, badaboum, bam, bam. Honte à ceux qui choisissent, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela.
La révolution sociale ne peut plus se faire par une initiative partielle, par la voie simple, par le bien. Il faut que l'humanité se sauve par un soulèvement général, par contre-coup, par le mal. Il faut que nous subissions une conquête et une oppression universelle, avant que se lève sur nous l'aurore de justice. La révolte en masse n'est plus possible que par la guerre. Il faut que vainqueurs et vaincus soient broyés, mêlés ensemble d'un bout du monde à l'autre. Car tous ont été également coupables en laissant perdre la tradition de liberté et d'égalité parmi les hommes. Et cette confusion des races durera tant que ne sera pas labouré le nouveau champ social. C'est à ce croisement universel que nous mènent les iniques violences des pouvoirs et des classes qui dominent. L'épée tranchera le nœud gordien de la situation européenne. La parole et la plume n'ont fait que le décrire.
Il y a le côté stirneriste de Cœur de Roi qui donne toujours sa propre projection subversive sur le monde.
L'unique, et, enfin, vous faites allusion.
C'est
à l'unique,
ça. Oui. Et à partir du moment où il rentre à l'intérieur, justement, de ce projet, il a perdu sa totalité.
Jean-Michel Gouty.
Oui, je veux dire, proche de l'unique de Stirner, et justement dans une lettre à Herzen qu'il traite de cosaque, et il qualifie le cosaque de grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant la négation et l'affirmation la plus hardie.
C'est sa définition, enfin,
dans
ses correspondances avec Herzen,
c'est
parce
cela.
Qu'il est évident qu'Herzen devait lui aussi quand même ne pas très bien comprendre même
oui.
L'apologie de Nicolas Ier, par exemple, qui se trouve dans Hurrah ou la Révolution par les Cosaques.
Voilà, c'est difficile pour Herzen d'être en même temps l'ami de Bakounine et qui est en prison et qui a plusieurs amis qui sont eux-mêmes dans la prison terrible de Pierre et Paul, et en même temps de voir le texte d'un anarchiste français qui lui annonce la venue bientôt de la Révolution par les Cosaques, qu'Herzen connaît trop bien.
Enfin, c'est-à-dire c'est une phase de la révolution pour lui, l'avenue des Cosaques. C'est-à-dire,
c'est
évidemment,
ça.
L'appel à un despotisme. Ce qui l'intéresse dans les Cosaques, c'est pas le despotisme pour le despotisme, c'est le potentiel de destruction que représente ce despotisme. C'est-à-dire ensuite, le terrain étant déblayé, on fait autre chose. Quoi.
Et pour rejoindre un petit peu tout à l'heure ce que disait Stellar, le côté forcené de l'écriture, c'est que Cœur de Roi n'a jamais pu se faire comprendre sur le fait des Cosaques. Et alors, il s'est excité sur 500 pages pour bien expliquer au monde entier, à l'univers, mais voilà pourquoi je vois les Cosaques, voilà comment ils vont arriver, comment ils doivent arriver. Et ça explique sa hargne en même temps, parce que quand il s'est expliqué en 49 et en 50 sur le fer rouge qui va venir et qui va
traverser le siècle,
qui va, oui, et en même temps transformer l'univers, on voit d'ailleurs dans les extraits des lettres
adressées
à Journal L'Homme, on voit cette volonté persistante de s'expliquer. Il s'explique parce qu'il sent qu'il n'est pas compris.
Jacques Sellard, la lecture d'Ernest Cœur de Roi aujourd'hui.
C'est extrêmement stimulant, roboratif, comme disaient les médicastres, et absolument indispensable, parce qu'il est extrêmement rare de redécouvrir, de découvrir tout à fait un écrivain doté d'une telle puissance de respiration, surtout maintenant où la petitesse, la mesquinerie et la sophistication sont les maîtres mots de toute littérature, alors que Cœur de Roi, lui, a la puissance du prophète visionnaire. Il ne manque pas de pages qui rappellent Ézéchiel, il ne manque pas de pages qui annoncent Nietzsche. C'est tout de même dans l'ensemble des écritures françaises la puissance torrentielle de Rabelais, le goût de s'enfoncer dans un certain délire. Il n'y a à son époque
à peu près que Victor Hugo, parce que Léon Blois a eu de très beaux mouvements, mais Léon Blois prit quotidiennement dans des magouilles littéraires, journalistiques et éditoriales effroyables, n'a jamais pu se donner le moyen d'autre chose que de petits cris, alors que Cœur de Roi écrit d'une façon telle que ça n'est jamais irritant. C'est quelque chose, c'est vraiment un pacifique qui nous mène d'un bout à l'autre. Alors, la partie du visionnaire se comprend beaucoup mieux en 1853 qu'elle ne se comprendrait maintenant, parce que tout était permis d'une certaine façon. Tocqueville a dit la même chose que Cœur de Roi, il l'a dit de façon bourgeoise.
Pas de la même façon. Oui,
pas de la même façon, mais quelque chose était dans l'air, qui était la vieille Europe est condamnée en face d'elle, vont, etc., se dresser les grandes puissances d'aventure. Et c'est de ça, fondamentalement, que nous avons besoin, parce que au fond, et là la référence à 68 est inévitable, ce que voit Cœur de Roi, c'est qu'à partir de 1853, la France s'ennuie.
Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
C'est un faux pacifique. Il y a des tendances criminelles, et on rejoint Gouthier tout à l'heure sur le côté sadien de Cœur de Roi. La criminalité est présente. Parce que si quelque chose vous gêne, si quelqu'un vous empêche de vivre, il faut le supprimer. Autant il a le côté fourriériste, toute amabilité, il est avenant, il reçoit tout le monde, il parle avec tout le monde, il s'épanche avec tout le monde. Il va même dialoguer parfois avec des gens qui ne le comprennent pas du tout, mais enfin, il trouve quelqu'un pour parler. Ce faux pacifisme, si vous voulez, retient une montagne de violence, une montagne de vengeance, de haine. Il est, je dirais, sur le piton entre la théorie et la pratique. Donc il ne peut pas s'exprimer par les gestes, il va s'exprimer uniquement par l'écriture, quoi. Il s'est isolé.
Jean-Michel Gouthier.
Oui, je crois que dans l'œuvre de Cœur de Roi, il y a une clé pour le grand débat qui est toujours actuel entre poésie et révolution. C'est-à-dire que dans cette œuvre, la première des libertés est la liberté de tout dire.
Bien, maintenant, il reste un problème. Enfin, nous avons vu Ernest Cœur de Roi naître du côté d'Avallon, et nous l'avons vu en exil à partir de 1849. Vous avez évoqué quand même cette vie d'exil, enfin, c'est-à-dire vous avez cité tous les endroits où il allait. Il a été chassé de Bruxelles, il a été chassé de tas d'endroits, et finalement il meurt jeune, et il meurt d'une façon énigmatique, Jacques Leglou.
Les informations restent très bizarres. En effet, en partir de 1860, il est dans le hameau de Fossas, commune de Chêne-Tonnex, canton de Genève, avec sa femme. Il pratique très peu les voisins, il s'enferme toujours, il sort de temps en temps seul, et de préférence à la tombée du jour. Et puis brusquement, les incidents commencent. C'est-à-dire que plusieurs fois, les voisins aperçoivent Cœur de Roi courir après sa femme. Plusieurs fois, les voisins s'aperçoivent que la femme de Cœur de Roi commence à sortir elle-même de sa maison toute seule, des visites nocturnes. Il y a toute une vie étrange qui commence à tourner autour, si vous voulez,
de l'habitation de Cœur de Roi.
De l'habitation de Cœur de Roi. Pour revenir un tout petit peu en arrière, dans les 5 dernières années de sa vie, Cœur de Roi a de très forts maux de tête. Et puis brusquement, le 25 octobre 62, la femme de Cœur de Roi sort de sa maison, appelle les voisins en criant des cris de détresse. Et quand les voisins arrivent dans la maison, Ernest est étendu sur le lit, mort. Les veines ouvertes. Alors les veines ouvertes, c'est très bizarre, parce que la première version était que Cœur de Roi s'était donné un coup de revolver. Alors le mystère demeurera sur la mort d'Ernest.
faut dire qu'on y mettra du cœur. Les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête, Macnovilla et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie.
Je suis de la race d'Amos, de Cassandre, d'Isaïe, de Savonarole, de Luther, de Cazotte, de tous les prophètes et de tous les apôtres qui crièrent en vain « Malheur, malheur aux habitants de la terre !» et que les habitants de la terre ont lapidé, et qu'ils ont roulé dans les fossés humides, et qu'ils ont retranché, enfin. Je suis de l'irritable race des prophètes et des poètes sauvages. Il faut que je répète ce que la Révolution me crie. Je suis étranger à mon pays et à mon temps. Je suis citoyen de la terre. Ma patrie, c'est l'avenir. Les haines de ce siècle me sont réservées. J'en perdrai le peu de santé qui me reste. Je suis celui qu'on accuse de répandre le désespoir parmi les hommes. Celui qu'on appelle fou, qu'on calomnie, qu'on condamne, qu'on poursuit partout, et qui n'excite aucun regret derrière lui, et cependant je ne dis rien que ce que je vois. Je suis celui que la fièvre consume, que ses entrailles dévorent, et je me complais dans ma douleur, car il faut que ma voix résonne plus aigrement que la trompette sur les nations pantelantes. Je suis celui dont le cerveau bouillonne pendant les pénibles insomnies, et dont le sang sort par la bouche au matin. Heureux, celui qui donne à la liberté un gage de son ardent amour. Je suis celui qui confondrait les savants et les moralistes devant le peuple, parce qu'il est nécessaire que le faux savoir et la fausse philanthropie disparaissent enfin. Les uns m'ont pris pour un instrument docile entre les mains des chefs de parti, les autres pour un ambitieux hypocrite, ceux-là pour un médecin et ceux-ci pour un philosophe. Je ne suis rien de tout cela. Je suis un homme libre parmi des esclaves. J'ai reconnu ce que valent les camaraderies politiques. Ma franchise a scandalisé tous ceux qui s'honoraient de ma connaissance quand il me plaisait d'être muet. J'ai mesuré le cercle étroit des affections de famille. Mes parents ont eu peur de moi, on s'est garanti de mon souffle. Je suis celui qui s'est levé de bonne heure et qui a vu l'étoile du matin. L'homme qui dort ne fait pas son travail. Je suis celui qui m'écriait le premier « Décadence de la France et de l'Occident, invasion des barbares du Nord, mort de la civilisation, naissance du socialisme, régénération de l'Europe par l'épée, transformation palingénésique de l'humanité. » Je suis celui dont la voix fut entendue déjà lorsqu'elle appela les Cosaques aux rives du Bosphore. Je donne aujourd'hui signe de vie pour que ceux qui ont des oreilles écoutent. Demain, s'il m'en reste la force, j'achèverai ma révélation. Je suis celui qui distingue de loin le grondement de la foudre et qui voit flamboyer le glaive à travers les nuages de plomb. Rien ne lassera ma persévérance, je ferai tout ce que j'ai résolu de faire. La France ne me tuera point par leur ridicule et je tuerai la France par mes prédictions. Je suis celui qui voit le soleil rougissant s'approcher de la terre tremblante et la consumer. Celui qui voit la mer déborder ses rivages et ne rentrer dans son lit qu'après avoir balayé les villes, les forêts et les récoltes. Je suis celui qui entend gronder le tonnerre comme 1000 tonnerres et siffler les grains de grêle comme des éclats d'obus. Celui qui voit, par les champs, les sacs d'or, les colonnes brisées des palais et des temples et les hommes fulgurés. Je suis celui qui se réjouit de ce déluge et d'être né à temps pour voir la terre abreuvée du sang des civilisés et leurs eaux fichées au coin de leurs propriétés pour remplacer les bornes. Il faut que je répète aux hommes le cri de la Révolution, ce cri qui s'acharne sur moi et ne me laisse aucun repos, ce cri qui m'ôte le manger et le boire, qui se couche et se lève avec moi. Je ne serai tranquille qu'après l'avoir traduit, s'il m'est possible, dans une langue humaine. Les autres jeunes gens boivent et font l'amour. Ils chantent et se préoccupent de leurs affaires. Ils vivent tranquilles au sein de leur famille. Ils font bien qu'ils soient heureux. Moi, je suis celui dont les paroles seront répétées et dont la vision s'accomplira. Il faut que je répète ce que la Révolution me crie.
Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux, nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu. Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces les cieux, nom de Dieu, s'arrondissent en avance sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence.
C'était Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Ernest Cœur de Roy. Avec la participation de Roger Langlais, Jacques Leglou, Jacques Sellard, Jean-Marie Gouthier. Texte lu par François Mestre et Philippe Moreau. Chef opérateur du son, Arlette Adrian. Collaboration technique, Philippe Destrebecq. Assistante de production, Cécile Tranvan. Réalisation, Anne Lemaitre.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés, pends, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 juillet 1978. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.